RFI.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, le café des sports, bien sûr, hebdomadaire, votre rendez-vous pour refermer une semaine d'actualité. Football, évidemment, toujours très riche et déjà prêt pour les débats, déjà prêt à en découdre, déjà prêt aussi à attribuer leur carton. Rémy Ngono et Xavier Barret, nos vedettes du vendredi. Bonjour messieurs.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour à tous les auditeurs du Togo, je m'apprête à arriver là-bas et je demande que je sois accueilli officiellement à l'aéroport par le chef d'État. Donc voilà. Attendez-moi là-bas au Togo, j'arrive bientôt et par la suite je serai au Burkina.
Ça y est, il a pris le melon. Hein. Il a pris le melon, on va lui dégonfler.
C'est Rémy Ngono officiel qui se déplace.
Bien sûr, Rémy en tour.
À ses côtés, vous l'avez entendu, il y a notre ami Franck Simon. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous et cher Rémy. Là on va pouvoir se taper de tout le plus près.
Ils sont à côté aujourd'hui. Il y a aussi le réfé qui est un peu loin pour faire l'arbitre. Bonjour Alejandro.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis on a un autre invité aujourd'hui. Le studio est plein, les amis. Sega Diallo, notre confrère guinéen. Bonjour.
Bonjour Annie et bonjour aux confrères.
Il vient de loin. Hein, ouais.
Vous êtes de passage à Paris. Vous n'êtes pas à Accra?
Non, j'ai préféré suivre PSG Liverpool.
Prendre de la distance. Voilà.
Je voulais me rendre justement pour les vacances en Guinée. On m'a dit qu'on m'attendait avec les gourdes à l'aéroport.
Non, pas du tout. C'est vrai que quelquefois c'est un peu limite, mais bon, ça va.
Bon alors, dans les débats plus policés du jour, des débats qui seront chauds, j'imagine, qui sera le meilleur joueur africain de l'année 2018? L'Égyptien Mohamed Salah se succédera-t-il à lui-même? La liste des possibles vainqueurs a été publiée ce matin. 34 joueurs retenus pour un trophée qui sera remis à Dakar le 8 janvier prochain. Le Vita Club à domicile au Stade des Martyrs pour tenter une remontada. Le club de Kinshasa, sévèrement battu à Casablanca par le Raja la semaine dernière, doit au minimum marquer 3 buts pour espérer remporter la Coupe de la Confédération. Pas facile comme défi. Encore des places à prendre en Ligue des Champions. Il reste une seule journée, mais décisive encore dans 3 groupes. Et notamment pour 2 clubs français, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Nous parlerons aussi des affiches du week-end. Nous, il y aura nos cartons, Radio Foot, le Café des Sports. Les débats sont ouverts.
The winner is Mohamed Salah.
Pour succéder à Mo Salah, le meilleur joueur africain de l'année 2017, le joueur de Liverpool aura 33 concurrents pour le titre de 2018. La CAF a publié aujourd'hui les noms des joueurs susceptibles d'être récompensés le 8 janvier prochain lors du gala annuel donc de la CAF au Sénégal, où seront aussi récompensés d'autres acteurs du football en Afrique dans les catégories meilleure joueuse, meilleur jeune ou encore meilleur entraîneur. Mais les 3 derniers lauréats du prix sans doute le plus espérés sont toujours là. Mohamed Salah, donc, qui avait été récompensé en 2017. Riyad Mahrez, vous vous en souvenez, alors à Leicester City, l'Algérien récompensé en 2016. Et puis le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, récompensé lui en 2015. Dans cette liste des favoris, il y a beaucoup de noms, certains peut-être qui se détachent, qui se distinguent. Sega Diallo, vous qui êtes un pied peut-être en Afrique plus que nous qui allons seulement de temps à autre, qui verriez-vous succéder à Mohamed Salah lui-même ou quelqu'un d'autre?
Quelqu'un d'autre, parce que Mohamed Salah sur la Coupe du Monde était moyen et aussi au vu du début de sa saison, ce serait logique que ce soit un autre joueur, même si il reste quand même un immense joueur et qui le prouve même avec la sélection tous les jours. Mais je pense que logiquement, ça sera un autre et pourquoi pas un local du lieu de l'organisation.
Et alors, qui pensez-vous?
Sadio Mané, je pense que ça le récompenserait de ses 2 dernières saisons, mais aussi de sa progression. Il est devenu un joueur important, on l'a vu mercredi, que ça soit avec Liverpool ou avec l'équipe du Sénégal, il est décisif, il devient un des joueurs les plus importants au niveau international. Je pense que ça serait logique qu'il soit récompensé.
À son tour. Donc finalement, la chanson Salah Salah Mané Mané, ils sont liés au-delà de la chanson, ces deux joueurs. Rémi Ngono, qui verriez-vous vous succéder à Salah?
Je balais du revers de la main mon confrère guinéen, tout ce qu'il a en fait de dire.
Parce que... Il est passé
c'est
à
parti,
l'attaque.
C'est parti,
c'est gars. C'est parti, d'ailleurs, il s'est positionné presque en face de moi, donc contre moi.
Je vois bien.
Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait...
Qui verriez-vous, Rémi?
Moi, Kalidou Koulibaly. Pourquoi? Parce que
c'est marrant, j'allais dire
je me rends compte
aussi.
Que comme, lorsqu'on comme essaie de voir, c'est toujours d'étape. Des attaquants, mais quand j'essaie de regarder l'équipe du Sénégal, même à la Coupe du Monde, elle a beaucoup tenu défensivement grâce à ce rock-là. Et lorsque je suis en train de voir ce qui se passe actuellement avec Naples, il faut quand même se dire
face
que...
Face au PSG notamment.
Face au PSG, Neymar avec Mbappé totalement mis dans sa panse. Même pas dans son estomac, parce
qu'il
est avalé.
On a vu toutes ces petites photos qui ont circulé sur Internet, voilà. Qui étaient assez amusantes.
Et de surcroît, être quand même élu le meilleur défenseur du calcio de l'Italie, devant les Bonucci, les Chiellini et consorts, cela veut dire que c'est hors norme. Lorsque vous voyez que ce monsieur gagne un trophée de cette envergure, moi je me dis, ce monsieur, c'est un roc. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est le défenseur le plus cher du monde qui est sollicité par tous les grands clubs. Donc, 90 millions d'euros qui ont été refusés par Naples. Donc, pour moi, c'est... Il est au top.
C'est votre choix. Alors, faut savoir que je crois qu'aucun ici ne vote. Hein, donc, ce sont des avis, des opinions d'observateurs, bien sûr, et de gens. Vous votez, Franck?
Ça m'est arrivé une fois l'an passé.
D'accord. Voilà. Ah. Alors, ça se reproduira peut-être.
Je vous l'avoue, voilà. J'ai voté pour Mohamed Salah, je crois, l'an passé, d'ailleurs.
Cette année, vous voteriez pour qui?
Si j'avais le pouvoir,
c'est pas si vous aviez le pouvoir.
Si j'avais le pouvoir d'influer sur mes collègues qui vont voter, et ça serait pour récompenser un joueur, forcément un joueur qui évolue dans un club des championnats africains, plutôt qu'un professionnel, parce que je pense que Mohamed Salah, il a brillé que par intermittence sur l'année 2018. 4-5 mois, ensuite sa blessure lui a fait énormément de mal, la blessure. On se souvient de ce qu'a fait Sergio
c'était
Ramos.
C'était plus qu'une blessure, hein. Voilà, c'était aussi un choc.
Et un coup d'arrêt pour lui.
Voilà, et puis derrière, c'est
aujourd'hui,
du monde.
Aujourd'hui, voilà, moi je voterai pour celui qui est 6e sur la liste qu'a donné la CAF. C'est Anis Badri, le Tunisien de l'Espérance, qui je pense, c'est une des plus grandes progressions à 28 ans du football international et aussi du football africain. Malheureusement, je pense qu'il aura des points, mais on va récompenser un Sadio, on va récompenser
parce qu'on les voit briller en Europe.
Absolument, absolument. Mais pourtant, c'est un garçon qu'on a vu en Coupe du Monde. Il a marqué, il me semble aussi, à Nice, en Coupe du Monde.
En tout cas,
la Tunisie a mis 5 buts. C'est l'équipe qui a mis le plus de buts pour les Africains en phase finale. Mais on aura retenu qu'ils en ont encaissé 5 contre les Belges. Peu importe.
Et en plus, il est dans l'équipe championne récemment.
Vainqueur de la Ligue des Champions.
On va le voir
en Coupe du Monde. J'ai noté, vous voyez,
En
Coupe du Monde des clubs. J'ai noté en bas de la liste un grand absent, à mon avis, parce qu'il y a des gars qui sont là, mais je me demande ce qu'ils y font. C'est Bagdad Bounja, l'Algérien qui joue au Qatar, à Al-Sadd. Je comprends pas comment ces garçons-là, qui est un des plus grands attaquants africains, ne se retrouvent pas dans la liste. Mais bon, c'est les choix de la CAF.
Il y en a déjà 34.
Oui, mais
ouais,
certains.
Enfin, il y en a, tu te demandes ce qu'ils font là, très honnêtement.
Et c'est quand même difficile d'aller voir au Qatar, hein. C'est quand même difficile.
Mais ils jouent en équipe d'Algérie.
L'équipe d'Algérie.
Tu l'as pas vu marquer avec l'équipe d'Algérie. Écoute, je t'invite à regarder les matchs. Écoute.
Xavier Barré.
Si c'est pour battre l'auto,
moi je suis très embarrassé parce que je suis du même avis que Rémi Ngono. Ça arrive 3 fois dans l'année et donc ça c'est. J'espère que c'est la dernière fois parce qu'effectivement cette année, je pense que Mohamed Salah a effectivement manqué le rendez-vous de la Coupe du Monde. Alors effectivement, il était blessé. Il y a plein de circonstances atténuantes, mais c'est difficile de lui redonner le titre de meilleur joueur africain après une année qui quelque part est un peu moins bien que l'année écoulée. Sadio Mané, malheureusement pour lui aussi avec Liverpool, il a été un peu dans l'ombre de Mohamed Salah. Donc c'est difficile de pas le mettre à Salah.
Il a pas passé le premier tour en Coupe du Monde.
Alors voilà.
Et peut-être
et Koulibaly non plus. Mais si le Sénégal n'est pas passé, c'est pas parce qu'ils ont encaissé beaucoup de buts, c'est surtout parce qu'ils n'en ont pas marqué assez et qu'ils n'ont pas joué assez l'attaque. Donc moi, je serais tenté de récompenser effectivement Khalilou Koulibaly parce qu'il a une saison assez exemplaire dans un club Naples qui s'est merveilleusement battu derrière l'omnipotente Juventus de Turin en Italie. Et puis je rajouterais même pour l'anecdote que Didier Deschamps était prêt à le prendre et que s'il n'était pas sénégalais mais français, il aurait été champion du monde.
Justement, je voulais ajouter juste un petit point pour dire justement pour dire que par rapport à Sadio Mané, parce que justement le Sénégal lui a offert le titre de meilleur joueur, le Ballon d'Or sénégalais.
Non, le Ballon d'Or, c'est à France Football, t'es gentil.
Oui, mais attendez,
gentil, bon, Ballon d'Or, meilleur joueur, mais pas
c'est
meilleur.
C'est un mot qui existe en français, donc je ne sais pas comment est-ce que
non, non, c'est une marque déposée.
Donc je me suis quand même retrouvé devant une situation où en équipe nationale, je n'ai pas vu ses prestations. Et d'ailleurs, la dernière fois,
mais vous avez argumenté sur votre choix. On va passer.
Il pleurait d'ailleurs.
On a beaucoup de sujets aujourd'hui. Alejandro.
Difficile de pas être d'accord pour Koulibaly ou pour Sadio Mané, mais bon, je vais ajouter un troisième nom peut-être parce que même s'il va pas gagner, parce qu'il incarne deux très belles équipes, c'est Hakim Ziyech qui est quand même un jeune symbole de l'équipe du Maroc qui peut-être est la meilleure équipe africaine aujourd'hui. Enfin, on peut en discuter.
Oui,
et puis l'Ajax
par les résultats,
est revenu au premier plan et c'est un parti grâce à lui aussi.
Oui, retour en huitième de finale de Ligue des Champions après 13 ans d'absence, effectivement un des hommes importants de l'Ajax Amsterdam. Et bien voilà pour ce qui est de vos avis et on verra donc qui sera
de l'absence de Nicolas Pépé. Surprenant.
Ah, mais il y a déjà 34 nominés. La CAF, elle va faire l'année prochaine une liste de 100 même. Ouais. Non, mais c'est beaucoup, je pense. Alors, c'est de la politique, il faut mettre des gens
c'est de
partout.
C'est de la politique, on est d'accord.
Il y a un malgache, c'est très bien, un ougandais, politique. Enfin, il y a des gens de tous
et
les pays.
Mais on connaît ça. Alors, à noter que le Ballon d'Or, le vrai, le seul, l'unique, celui remis par France Football, sera remis lundi soir au lauréat.
Il y en aura
Paris.
Deux, Annie. Il y aura deux Ballons d'Or. Le Ballon d'Or féminin.
Oui, non, mais il y en aura aussi.
Non, je suis désolé, je défends le football féminin.
Ça. Allez-y. Donc, il y en aura deux, et ça sera remis au Grand Palais lundi soir, et Radio Foot sera en direct à partir de 21h10 en temps universel pour vous raconter cette soirée. On reste en Afrique. Restons justement en Afrique parce qu'il y a une finale très importante, et elle se jouera véritablement sur le continent africain. Vous comprendrez sans doute pourquoi je dis ça. Cette finale retour de la Coupe de la Confédération, le club marocain dans la chaleur du stade des Martyrs de Kinshasa face au Vita Club. Ça sera un match compliqué.
Dans la profondeur, Ben Ali, la talonnade avec le crochet et l'ouverture du score. Oh, quelle action! Ben Ali, Raimi qui fait exploser le complexe Mohamed V. Raimi qui marque le but pour l'instant. Oh, c'est le deuxième! C'est le deuxième pour le Raja qui fait la différence avec encore lui, Raimi, pour le doublé. Pénalty pour Ben Alib face au Camerounais de 38 ans. Ben Alib qui a été deux fois passé dans ce match et qui aimerait bien marquer son but lui aussi pour faire chavirer le complexe Mohamed V. C'est dedans, le 3-0, il est là. Le 3-0, il est là pour le Raja.
Un handicap, comme on dit dans un autre sport, comme on dit dans le golf, un handicap de 3. Et la remontada est-elle possible pour le Vita Club? Alors vous entendez ces notes de musique du Congo. On les entendra peut-être ou d'autres dans le stade des Martyrs de Kinshasa. La défaite a quand même été très sévère au match aller. Et encore sous le choc de la défaite à Casablanca, l'entraîneur Vita Clubien, Ibengue, avait réussi quand même à essayer d'être positif au micro d'Hakim Tamim.
On a été battu dans tous les duels, on a reculé alors qu'il fallait être beaucoup plus haut et plus conquérant. On a laissé jouer cette équipe du Raja. Et du coup, il fallait redoubler d'efforts pour essayer de conserver un espoir pour le match retour. Donc là, on s'est vraiment compliqué la vie. Il reste une manche, on va essayer au moins de la jouer pour la remporter.
Et oui, rejouer la deuxième manche différemment. Le Vita Club peut-il remonter ce handicap de 3 buts de retard? Parce que évidemment, pour gagner la coupe, il faudrait en marquer 4, n'en encaisser qu'un, ou en tout cas en marquer 3 pour aller au tir au but. Franck Simon,
oui.
cette finale, est-ce que ça vous paraît encore alors jouable toujours,
tout
évidemment, avant un coup d'envoi, mais quelles sont selon vous les chances de ce Vita Club?
Leurs chances, elles sont pas vraiment intacte, dans le sens où effectivement c'est pas la pluie qui tombait, contrairement à ce qu'on pressentait la semaine dernière avec Alejandro, mais c'était les buts qui pleuvaient. Il y a une équipe qui n'a pas existé, tout simplement. Ibengue était d'une grande honnêteté. Ils ont encaissé 3 buts, ils n'ont rien fait, ils ont perdu leur meilleur joueur, Jean-Marc Makoussou Moundélé, au bout de 25 minutes.
Il sera là au match retour apparemment.
Oui, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. En face, ils ont...
C'est plutôt une bonne nouvelle, oui, parce que dans ce cas-là, c'est le meilleur buteur de la compétition.
C'est le deuxième meilleur buteur. Le meilleur buteur, c'est Ben Alib, de justement de leur adversaire, du Raja. 3-0, c'est compliqué. C'est le match le plus médiocre qu'ils aient fait dans cette compétition, parce que j'ai eu la chance de les suivre, les commenter à plusieurs reprises.
Ça s'explique comment ?
Et ça... Bah, ils ont été au milieu de terrain, ils n'ont pas existé. Ils ont été totalement absents, ils ont été pris par un milieu de terrain travailleur, et puis par l'efficacité, le pressing très très haut. Une équipe du Raja qui était effectivement super bien préparée, qui les connaissait par cœur. Et pour cause, ils se sont affrontés 2 fois déjà en poule. Il y avait 0-0 à Casa, 2-0 pour le V-Club à Kinshasa. Mais visiblement, il y en avait une qui connaissait mieux l'autre que l'autre adversaire. Donc... Pour moi, les chances, elles sont pas totalement intactes, mais effectivement, au Stade des Martyrs, ex Camagnola, on sait qu'il y aura du monde, et les supporters Banavea vont venir, vont pousser. Vous savez que le football congolais est pas au mieux. Ils ont pas gagné un match avec l'équipe nationale en 2018. Il faut absolument donner un peu
pour
de
la CAN est compliquée.
Voilà, elle est très compromise. Il faut donner du bonheur, et peut-être au public quinois et au public congolais, ça passe forcément par un résultat. Moi, je souhaite qu'il y ait une vraie réaction qui nous montre comment ils jouent bien, parce qu'avec Rémi, on était assez d'accord pour une fois aussi la semaine dernière, c'est que le V-Club, ils ont des arguments offensifs.
Mais franchement, tu crois qu'ils peuvent gagner 4-0 après avoir perdu 3-0 à l'aller? Je crois que c'est arrivé une fois dans l'histoire des coupes africaines qu'une finale soit renversée comme ça. C'était en 1976.
T'as oublié la Ligue des Champions, hein, avec la remontada, enfin l'Esperantada de l'Espérance de Tunis.
Oui, mais ils étaient pas menés 3-0, ils étaient menés
3-1. Non, il y avait 3-1, mais ils l'ont
fait
marqué
quand même.
C'est pas impossible.
Ils avaient marqué un but, alors que
c'est pas impossible.
La seule fois, et ça s'était joué au tir au but en 76, c'était le Hafia de Conakry contre le MC Alger. Et
ça doit interpeller ces gars.
Le Hafia avait gagné l'aller 3-0, ils ont perdu le retour 3-0 au tir au but, mais il gagne l'année d'après, du coup. Donc ça
Rémi,
les a...
Rémi, est-ce que vous pensez que ce V-Club, alors on va dire, pour se distancer des statistiques, hein, que vous avez vu que Xavier a mis des statistiques
tout de suite, maintenant
sur l'Afrique. C'est son tour.
Le
V-Club d'aujourd'hui, peut-il, le Vita Club, peut-il finalement surpasser cette équipe qui les a bien dominés au match aller?
Non. C'est un nom sec, pourquoi? Parce que
oui, c'est sec.
Oui, parce que première des choses, sur le plan du défensif, le Vita a des difficultés. Même s'ils avaient battu les Égyptiens de Azerbaïdjan par 4-0, ils avaient cependant concédé beaucoup d'occasions. Ce qui signifie que le gardien était au bon jour. Parce que quand les gens voient le résultat, quand les gens voient le résultat, ils se disent que bon, ça a été 4-0, mais le nombre
3-0.
De
non, 4-0, 4-0 contre
c'était 4-0. C'est pour ça que je dis que les gens, en voyant ce match, ils se disent que ils peuvent remonter ça. Or, ce n'est pas possible, parce que le Raja, contrairement à cette autre équipe là, est une équipe qui sait très bien coulisser. Et d'ailleurs, vous avez vu, le Raja à l'extérieur avait réussi à battre les Nigérians par 1-0, parce que les Nigérians croyaient aussi qu'ils allaient prendre le Raja comme ça, pas derrière. Et de surcroît, je crois que aujourd'hui, c'est une malédiction pour le Vita Club qui, après 1973, n'a plus jamais rien gagné, et arrive dans des finales, les perd, et vraiment, il fallait fermer la boutique après avoir encaissé un ou deux.
C'était
mais ils n'ont pas, ils n'ont même pas songé à fermer. Bon, non, aujourd'hui.
Ils ont perdu leur stopper, en plus.
Franchement,
donc Mangala a été expulsé.
Je comprends. Donc, c'est pour ça qu'il y a un proverbe africain qui dit que, on ne répare pas l'enclos quand les moutons se sont déjà échappés.
Je comprends pas pourquoi les dirigeants du V-Club n'ont pas pris Rémi Ngono comme coach, franchement.
Ces gars, c'est aussi.
Ils sont en démarche, on est en train de négocier.
C'est aussi peut-être l'illustration, justement, le football marocain va plutôt bien en ce moment par rapport au football du Congo.
L'impression générale, oui, mais je pense que aussi Florent, il est un peu lessivé. Je pense que le fait de continuer.
On dit déjà ça pour la sélection.
Sur les deux tableaux, le fragilise. Voilà, c'est assez compliqué. Il a moins de ressorts, il a du mal à penser les choses avec beaucoup plus de sérénité, que ça soit avec la sélection ou qu'avec le V-Club. Sur ce match-là, on peut perdre 1-0, 2-0, une finale, mais 3-0, c'est plié.
Ils sont écroulés en un quart d'heure, t'as vu.
Voilà, c'est assez problématique maintenant. On ne peut pas présager du match retour. Même si, pour moi, ça serait extraordinaire si les Marocains encaissaient 3 buts sans en marquer.
Ils ont un super gardien.
Voilà, donc pour moi, c'est presque perdu, mais Florent joue peut-être son année. Et même son avenir, puisque la CAN n'est pas actée, s'il perd des finales d'affilée comme ça et puis n'arrive pas à qualifier le Congo, je pense qu'il va penser rapidement à une année sabbatique ou deux.
Eh bien voilà, cette finale qui aura lieu donc dimanche.
Dimanche soir, à la même heure que la finale allait à Casa, au stade des Martyrs. Et que, j'espère qu'il y aura du monde.
Et que vous pourrez suivre. Eh
non,
bien,
ça par contre, c'est sûr qu'il y aura du monde.
Oui, le Vita Club là pour ça une finale
être,
retour.
Ça peut être un très grand bonheur, mais ça serait bien déjà qu'ils gagnent ce match. Voilà.
Ça serait déjà au moins pour l'honneur. Voilà. Hein, au moins pour l'honneur. Et évidemment, dans Mondial Sport, dimanche soir, vous pourrez entendre les résultats et les commentaires.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Justement, tout à l'heure, quand je parlais d'une finale retour qui se dispute, eh bien, verra-t-on l'épilogue du fiasco? On peut dire comme ça, Alejandro, me regardez pas si méchamment, de la finale de la Copa Libertadores qui nous faisait tous rêver quand on avait vu l'affiche, ce River Boca, Boca River, une finale 100% argentine, un super classico en finale. Alors en est-on à l'épilogue ou au énième épisode? Voilà que la Comebol, celle qui est responsable du football sud-américain, a décidé cette semaine d'abord que cette finale retour ne se jouerait pas suite aux incidents à Buenos Aires finalement. Et puis, comme elle est pressée par le temps, eh bien, beaucoup de stades et de villes se sont proposés pour organiser le stade des villes en Amérique du Sud. Eh bien non, apparemment, ça se jouerait en Europe, un River Boca à Madrid, à Santiago Bernabéu. En tout cas, l'entraîneur Santiago Solari du Real, vous allez l'entendre, il est assez content, mais aussi partagé.
Je suis animé par des sentiments partagés. D'un côté, c'est un honneur pour les Madrilènes, pour notre stade, d'accueillir la finale de la Copa Libertadores et le classique du football argentin. Et cette confrontation entre les deux plus grands clubs d'Argentine. Et espérons qu'une enceinte comme Bernabéu aide à bien conclure cette finale. Donc à la fois un honneur, mais je ne peux écarter les raisons qui aboutissent à cette rencontre exilée ici. À un océan de distance de Buenos Aires, ce qui fend le cœur de beaucoup de gens. Une véritable tristesse et un mauvais exemple pour les enfants.
Ça fend le cœur de beaucoup de gens, alors notamment de Solari, et peut-être du vôtre aussi, Alejandro, parce que Solari, il a un petit côté River Plate.
C'est une grande famille de River Plate, la famille Solari. Mais c'est vrai que on ne sait pas si c'est les derniers épisodes, parce que c'est vrai que la Conmebol a fixé ses rendez-vous au stade de Bernabéu, mais le fait est que ni River ni Boca ne sont contents avec cette décision.
Ils en viendraient même à la justice sportive.
River estime que c'est pas équitable, puisqu'ils ont joué les matchs aller à Boca avec du public de Boca, et ils estiment que le match retour doit se jouer chez eux avec leur public, et non pas à 10 000 km et avec un public mélangé. Et de son
oui,
côté,
mais le soutien d'El Jefe à Madrid, ça vaut double ou triple. Au moins 20 000 spectateurs.
Et c'est vrai qu'ils disent il y a 250 000 Argentins environ en Espagne, donc le public va pas manquer. En plus, il y a beaucoup de gens qui vont éventuellement se rendre depuis Buenos Aires pour ce match. Mais Boca n'est pas content non plus, parce qu'ils estiment qu'ils auraient dû gagner sur tapis vert. Ils pensent que ça aurait été la bonne décision.
Ils sont pressés par le temps parce que ensuite il y a, vous en parliez tout à l'heure, ce mondial des clubs où un représentant sud-américain doit être défini. Et théoriquement, il est défini à l'issue de la Copa Libertadores. Mais ça peut encore changer, selon vous, Alejandro ?
Il n'y a pas énormément de temps, il y a ce week-end. Alors, River espère que le président d'Argentine, Macri, continuera à faire pression sur la Conmebol pour que ça se joue à River. Ça paraît peu probable quand même. Et Boca va de toute façon continuer à s'agiter. Après, les deux clubs, si ce match a lieu à Madrid, devront partir en début de semaine pour Madrid afin de s'acclimater et se préparer. Donc une fois que ce sera le cas, ça va être difficile de le déplacer à
oui,
nouveau.
Oui, on passe de l'été à l'hiver.
Mais on en a eu tellement d'épisodes que qu'on peut pas exclure qu'il y en ait encore.
Est-ce que c'est un triste spectacle, Xavier, que cette finale retour qui n'a pas pu se jouer d'un jour remise d'un jour sur l'autre, tout ce qu'on a vu dans la rue, tout c'est ce qui a circulé sur les réseaux sociaux et finalement repoussé repoussé d'un océan.
C'est d'autant plus regrettable que sur le terrain, qu'on avait vu du match aller était extrêmement satisfaisant. On pouvait craindre, compte tenu de la passion qui anime les supporters des deux clubs, des dérapages. Il n'y en avait pas eu au match aller. Et le retour, on se réjouissait. Déjà, le match donc repoussé de 24 heures et puis ensuite repoussé sine die. C'est une frustration terrible pour les amateurs de football, pour les supporters de Boca comme de River encore plus. Et je serais tenté de dire pour le football, parce qu'il y a cet enchaînement que vous évoquiez, la Copa Libertadores, et derrière, et le champion d'Amérique du Sud, il va se mesurer aux champions d'Europe, aux champions d'Afrique, aux champions de la CONCACAF, aux champions d'Asie, dans le mondial des clubs. Et ça, c'est un rendez-vous vraiment important pour les supporters en Amérique du Sud. Et là, pour le moment, ben, on est dans l'expectative.
Franck ?
Ah, c'est curieux quand même, venant d'une grande confédération comme la Confédération Sud-Américaine, qui a donné tant de leçons.
Enfin, alors, notamment, le football est grand là-bas, mais la confédération, c'est pas elle. L'entité, c'est pas sûr.
Ça me fait doucement sourire quand on critique à longueur d'année le football africain, les compétitions de clubs. Quand on voit ça, je suis désolé. Il y a des décisions, on les prend point barre et on s'y tient. Voilà. Après qu'il y ait des frustrés, il y aura toujours des frustrés.
Et qu'il y a des influences.
Mais voilà, moi pour moi c'est pourri quoi. C'est pas un bon exemple. Je suis désolé.
Oui, bah c'est ce qu'il disait d'ailleurs Solari en pensant aux enfants évidemment parce
et puis,
que
la sécurité n'est pas plus garantie à 10 000 km qu'à Buenos Aires. Parce qu'il y aura beaucoup de supporters. D'ailleurs, le Real Madrid et l'Espagne a prévu une sécurité encore plus grande que pour un classico Real Madrid-Barcelone. Mais ils n'ont pas l'habitude de gérer les supporters argentins et comment séparer les supporters de Boca des River sur quels critères.
Il y en a qui seront en bleu et d'autres qui sont en rouge.
Il n'y aura pas de gilets jaunes.
Des achats des billets, c'est pas forcément évident.
On verra ça. En tout cas, on suivra cet épilogue de la Copa Libertadores. Il reste encore des places à prendre en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et oui, 4 places, alors que 12 équipes sont qualifiées à ce jour après la 5e journée de la phase de groupe, du suspense donc, sur lequel nous allons essayer de revenir. On va prendre les groupes dans l'ordre, de A à F à G, et on va essayer de voir. Bon, pour ce qui est du groupe A, rappelons les qualifiés, Atlético Madrid et Borussia Dortmund, pas de commentaires. Groupe B, le Barça est qualifié, mais voilà qu'il reste une incertitude entre l'Inter et Tottenham. Sega Diallo, cette semaine, Tottenham, pour rester en vie, comme on dit, les Spurs, devaient gagner, ils l'ont fait. Ils ont gagné 1-0 à domicile. Ils se retrouvent à égalité de points, un peu égalité de tout d'ailleurs, de buts marqués et tout avec l'Inter. Qui, selon vous, risque bien de disputer la phase prochaine de cette Ligue des Champions?
Je pense que l'avantage pour Tottenham, elle est mentale. Et sur la dernière journée, je pense que ils vont tout donner en espérant que, vu que le Barça est déjà qualifié, le Barça peut être un partenaire pour eux. Mais l'Inter, sur cette compétition, a plus d'expérience. Je pense que les Anglais, ils ont le potentiel. Ils doivent normalement passer plus facilement. Mais
ils vont jouer à Barcelone quand même. C'est ça le problème.
Mais face à une équipe de Barça qui n'est pas top depuis le début de la saison et qui est déjà qualifiée sur la compétition.
Mais de là, ce qu'elle perd chez elle ou qu'elle gagne pas.
Sega, je croirais entendre Rémy Ngono. Une équipe du Barça qui n'est pas au top, elle est deuxième de la Liga, elle est déjà qualifiée pour la suite de la compétition, elle a gagné la Supercoupe d'Espagne. Non, ne sois pas frappé de Ngodoït ou de Rémy Sel. Préserve-toi de cette contagion.
Alors, il a un joli maillot. Hein. Maillot du Barça.
D'accord,
sous t-shirt.
Le prochain match sera celui Inter Milan PSV Eindhoven. Vous pensez que l'Inter à domicile devrait réussir à se qualifier?
Sincèrement, j'aime bien Tottenham, mais franchement, je vois pas comment ils peuvent passer parce que l'Inter a fait preuve depuis le début de cette phase de poule d'un caractère absolument incroyable contre Tottenham d'ailleurs lors du match aller. Ils étaient menés, ils sont allés arracher
contre
la victoire
le Barça aussi.
Contre le Barça, ils arrachent l'égalisation. C'est une équipe qui est pas terrible à voir jouer. Mais qui a des
vrais bons joueurs à des postes clés, notamment devant avec Icardi, qui est un sacré
dans le but aussi,
chasseur
peux,
de but
et qui marque au moment où il faut.
Et donc,
le gardien, voilà. Voilà. Pas le gardien, Franck. Ouais,
mais sinon, moi, je vais vous tirer les oreilles. Là.
c'est vrai que c'est une équipe. Franchement, je suis pas fan, mais ils sont là.
C'est
et
solide,
malheureusement, je pense que Tottenham à Barcelone, ils pourront pas réussir le résultat qu'il faut pour se qualifier.
Vous êtes d'accord sur l'Inter Milan aussi, Franck?
Oui, même si c'est franchement pas folichon. C'est pas folichon, c'est clair. Voilà.
Alejandro?
Oui, non, je partage totalement cet avis. Je pense que l'Inter va passer.
Ah, c'est gars, je crois que vous êtes en minorité. Rémi, lui, il dit rien. Alors on passe à l'autre.
Ah, il va sortir la hache.
C'est Sega qui a parlé pour lui.
Rémi, dans le groupe C, trois équipes pour deux places, parce qu'il y en a trois encore qui peuvent prendre une place. Et ce groupe C, c'est évidemment celui de Naples, Paris et Liverpool. Alors, ils n'ont pas le même nombre de points, mais effectivement, chacun, en gagnant, peut réussir à passer au tour prochain. Et donc, il y aura que deux élus pour trois prétendants. Qui voyez-vous passer dans ce groupe C?
Normalement, Paris devrait passer parce que quand même l'adversaire de Paris qui est
sera
là...
Sera Belgrade, hein, à Belgrade.
Sera à Belgrade.
L'étoile même... rouge à Belgrade.
Ah oui, mais sauf que sur le palmarès, peut-être Belgrade dépasse Paris avec déjà une Ligue des Champions, mais pour y arriver, ne serait-ce que cette fois-ci, il faut
il
quand même dire
quand même.
Que c'est une équipe qui est quand même passée par les préliminaires. C'est-à-dire qu'il y a trois équipes qui sont arrivées là par des préliminaires, c'est même par effraction que cette équipe-là se retrouve. Et si Paris Saint-Germain, qui en 2011 a été programmé pour remporter la Ligue des Champions, en 2014 se retrouve en train d'être éliminé en phase de poule, et il y a une grosse crise. Donc moi, de toutes les façons, je crois que Paris...
Donc Paris
au regard,
et qui ?
Il y a Paris qui va passer, sans l'ombre d'un doute... Et puis maintenant, je crois quand même que au niveau de Naples, c'est là où c'est beaucoup
on
trop
aura
compliqué.
Liverpool-Naples, hein, comme on aura Liverpool-Naples comme autre
on,
match.
On aura Liverpool-Naples, mais cette équipe de Liverpool que j'ai eu désorganisée sur le plan défensif, alors que je croyais que Van Dijk était quelque chose
force.
De voilà, c'était leur force. Bon, voilà, cette équipe de Liverpool ne parvient pas à m'impressionner depuis un certain temps parce que en même temps, il faut quand même se dire que l'année dernière, ils ont bataillé pendant presque deux mois pour arracher une qualification en Ligue des Champions, sans pour autant oublier que je trouve que Mohamed Salah n'est plus là et que le seul qui est vraiment percutant, c'est Mané. Donc pour moi, je crois encore que Naples a beaucoup plus d'atouts même que c'est Liverpool.
Sega.
Oui, si on se réfère au match de mercredi, la désorganisation défensive de Liverpool est due à Klopp. Klopp a décidé de mettre Lovren avec son expérience et d'enlever Gomez dans l'axe qui a joué avec Van Dijk depuis le début de la saison et de mettre Alexandre Arnold sur le banc, le jeune anglais qui a un apport offensif et défensif assez intéressant. Et donc si on prend ce match-là, on peut se poser
il
des questions.
Il devrait pas répéter
mais
ça.
Mais sur ça c'est clair. Hein, mm-hmm. Même face à Everton ce week-end, il va remettre une équipe et face à Naples, ce qui se joue, c'est quand même le finaliste de la saison dernière, hein. Il
ne
faut pas l'oublier, et que le patron américain était à Paris pour suivre le match-là. Donc, les boss du côté de Liverpool, ils tiennent mordicus. Je pense que ça va être une finale pour les deux, mais...
C'est pas en y tenant. C'est comme on dit chez nous, il y a un proverbe africain qui dit que ce n'est pas en disant « mon Dieu, que le marabout ira au ciel ».
Le match, il va plutôt se jouer entre le collectif...
C'est pas un proverbe pour répondre à Rémi.
Je laisse sur son terrain. Le match, il va se jouer entre le collectif de Liverpool et son enthousiasme en field. On sait que les supporters sont électrifiés quand ils sont là. Face à la magie de Ancelotti, l'adversaire le plus redoutable sur ce match-là pour Liverpool, c'est Ancelotti. Pour moi, c'est clair.
Franck ?
J'ai rien à ajouter à cette analyse. Je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Et je pense qu'effectivement, ça va être... C'est compliqué d'aller à Anfield dans tous les cas de figure.
Le groupe D, on a déjà le FC Porto et Schalke 04 qui sont qualifiés. Groupe E, le Bayern Munich et Amsterdam, on en parlait tout à l'heure, l'Ajax qui est de retour. Et puis ce groupe F avec Manchester City et Lyon. Lyon ou le Shakhtar Donetsk, puisque Manchester City est déjà qualifié. Alejandro Valente.
Oui, c'est dommage parce que
Lyon
était qualifié
mais
victoire du Shakhtar in extremis sur la pelouse d'Offenheim a tout changé parce que ça oblige quand même Lyon à ne pas perdre en Ukraine. un match très incertain. On ne sait pas où il aura lieu, mais on sait que l'adversaire est extrêmement dangereux et déterminé. Il l'a prouvé en allant arracher cette victoire qui les maintient en vie en Allemagne. Donc, pour moi, Lyon est loin d'être qualifié encore.
Xavier.
Ouais, on ne sait pas où il aura lieu. C'est que c'est pas propre à la Conmebol. Donc, même si là, la situation est plus grave parce qu'il y a une guerre. Il y a une guerre entre oui. les Ukrainiens et les Russes.
Ça dépend pas du monde du football.
Et donc, le stade de Donetsk, qui était un stade magnifique, où j'ai eu l'occasion
qui
d'aller.
Qui n'existe plus depuis plusieurs années.
Il est détruit, absolument. Donc, le Shakhtar est obligé de errer de Kharkov à Kiev, à Lvov. Mm. Donc, c'est terrible, mais ça démontre la hargne de ces joueurs-là, qu'ils soient brésiliens, parce qu'il y a beaucoup de brésiliens, ou qu'ils soient ukrainiens, ils ont vraiment la volonté de montrer sur la scène européenne que leur club existe toujours, alors que leur ville est en ruine. Donc il y a effectivement une surmotivation de la part de ces joueurs, et ils l'ont encore démontré lors de la dernière journée de la cinquième journée des éliminatoires, et ça va être très très compliqué pour Lyon, où que se déroule le match.
Rémi,
c'est toujours avec beaucoup de regret depuis 2012 que on dit il s'en est fallu de peu pour que Lyon fasse quelque chose, parce que
non, mais c'est un
quand
fait.
Quand on se retrouve quand même là avec Agüero arrive au niveau de mon nombril, comment est-ce qu'il peut marquer un but de la tête? Mais ces gars, ils doivent aller en prison.
Donc
à une certaine période, quand on est en train de regretter aujourd'hui avec le match que Lyon a eu à faire, mais c'est comme l'année dernière, c'est comme l'année d'avant, c'est comme ceci et cela, et ça va encore se passer. C'est-à-dire que
donc,
là, je suis sûr que ce Lyon ne pourra pas aller gagner là-bas, parce que...
Non, il peut faire un match nul.
Ah oui, mais ce sera très difficile. Donc, tout cas, parce que Lyon, que ce soit en Ligue des Champions, ça ne marche pas, en Europa League, ça ne marche pas, mais attendez, c'est pas possible.
Conclusion.
Un proverbe africain. Ouais, je conclue par un proverbe.
Comme l'a dit un proverbe français, l'heure, c'est pas l'heure, mais après l'heure, c'est plus l'heure. Donc voilà, Lyon a peut-être laissé passer sa chance, excuse-moi Rémi, de mettre tout le monde d'accord avec un proverbe français.
La terre est dure et le ciel est loin.
Allez.
C'est gars, oui, ouais. C'est un proverbe.
Non, pas un proverbe. Juste une info qui m'arrive d'Accra. C'est officiel, le COMEX à l'unanimité a décidé de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun pour des raisons sécuritaires.
Eh ben
on va développer un peu plus tard avec.
On va essayer. C'est une information
source,
officielle.
Cherche les gars.
D'une source guinéenne.
De source COMEX guinéenne.
Je ne préciserai pas.
D'accord.
On va voir si on arrive à joindre Olivier Pron, notre envoyé spécial du côté d'Accra. Et en attendant, on va essayer de continuer. Baby, we don't like the Chelsea. We don't like Man U. And most of all, we hate the Tottenham. Baby, we don't like the Chelsea. We don't like Man U. And most of all, we hate the Tottenham. Dad tried to make me support Arsenal, but I said no, no, no. Things have been black, but when's first come back, you'll know, no, no. Tony Adams did the crime and ended up doing time. Dad tried to make me support Arsenal, but I said no. Voilà de quoi opposer les clubs entre Tottenham et Arsenal, les rendez-vous du week-end justement, la sélection de Radio Foot, les belles affiches du week-end. On a d'abord ce derby de la Mersey. Je vais vous faire intervenir un petit peu chacun sur ces oppositions. Et évidemment, Franck, ouais. Reds contre Toffees, Liverpool qui reçoit Everton à Anfield, le deuxième contre le sixième. Everton n'a pas battu Liverpool depuis 2010 chez
eux. Une bonne occasion.
C'est une bonne occasion. Alors dites-moi pourquoi.
Bah, c'est une bonne occasion parce que là, ils sont dans une dynamique depuis quelques semaines déjà.
Deuxième contre le sixième, Liverpool est invaincu en championnat pour l'instant.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, bon, c'est eux l'outsider. Ils sont, concrètement, on sait que c'est quasiment impossible quand t'es Toffee d'aller là-bas et d'aller faire mieux qu'un nul. C'est très compliqué. Il n'y a pas grande distance entre les deux stades, entre Anfield et Goodison Park, mais en même temps, il y a beaucoup, et dans le jeu et dans les effectifs. Donc,
la tâche paraît quand même compliquée pour les joueurs du coach Marco Silva. Maintenant, il y a aussi des internationaux, des joueurs de qualité. Ils vont essayer de les contester.
Bon. Puis, il y a un élément important, c'est que Liverpool a joué cette semaine un match très difficile contre le Paris Saint-Germain.
Ils ont pioché.
Moi, j'y étais. Ça a été un match d'une intensité incroyable. Pendant ce temps, Everton s'est préparé puisqu'ils sont pas européens cette saison. Oui. Et donc les Toffees.
Ça leur arrive peu souvent, tu sais, ces derniers temps.
Oui, ils l'étaient la saison dernière.
Ouais, mais bon, ils sont pas restés bien longtemps. Souviens-toi,
oui, ils ont joué de l'OL. Ouais. Oui, mais Everton va arriver dans ce derby avec une hargne et une fraîcheur incroyable. Et oui, pour Liverpool, où Klopp finalement aligne souvent les mêmes joueurs, même s'il a renforcé son effectif avec Naby Keita, avec Shaqiri qui reste, avec Fabinho qui reste remplaçant, eh bien, on va voir quelle équipe il va aligner. Mais je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que le classement le laisse croire.
Sauf qu'Everton, t'as aussi un 11. Marco Silva, c'est pas un adepte du grand turnover. Il a des joueurs importants, il a des internationaux, il a des joueurs qu'on connaît, il a les Digne, il a Richarlison, il a Gylfi Sigurdsson, il a le gardien de l'équipe d'Angleterre, Pickford, etc. Il y a de la qualité. On a Ganagay, bien entendu. Mais c'est difficile quand même quand t'es face à un Liverpool de ce tonneau-là. Même s'ils sont fatigués, ils vont, à la maison, ils vont faire le rouleau compresseur.
Mais Everton a réussi des bonnes prestations ces derniers temps. Ils ont fait nul contre Chelsea. Le match contre Manchester United, ils le perdent de très peu. Ils perdent 2-1, mais ils le perdent de très peu. Donc du coup, on est dans une confrontation où moi je pense qu'il y a une vraie carte à jouer.
Si le bleu triomphe, j'en serais le premier heureux.
Mais ça, j'imagine bien.
Pour les
auditeurs de RFI qui le savent pas, Franck Simon est un grand supporter des Toffees.
Non, mais moi je le savais. C'est pour ça que je lui posais la question.
Et Neville Southall, notre dieu des gardiens, qui était le gardien de but des années 80, le Gallois, grand gardien de but.
Alors, autre derby en Première Ligue, c'est la North London Derby, comme on dit dans l'anglais, châtier de Londres, qui opposera les Gunners et les Spurs. Arsenal qui reçoit Tottenham, le troisième contre le cinquième. On va écouter Mauricio Pochettino, parce qu'en ce moment, Mauricio Pochettino, eh bien, il mise sur un joueur. Peut-être qu'on n'aurait pas imaginé ça.
Il était difficile de parler de Moussa Sissoko il y a quelques saisons de cela, alors que tout le monde réalise à quel point il est fantastique. Sa contribution est exceptionnelle pour l'équipe, à un moment où nous avons besoin de ce type de performance. Il apporte de l'équilibre à la formation lors des transitions, lors des situations défensives. On joue mieux lorsqu'il a le ballon. Cela démontre bien qu'en se montrant professionnel et en travaillant dur, on peut vraiment s'améliorer. Moussa a énormément progressé en 2 ans et demi, selon moi. C'est une preuve que le programme qu'offre Tottenham aux joueurs pour s'améliorer est valable.
Alors étonnant, hein, Moussa Sissoko, qu'on a vu longtemps en équipe de France, c'est un des hommes sur lesquels a longtemps misé, on s'en souvient, l'Euro, Didier Deschamps. Mais est-ce que cet Arsenal, qui n'est plus l'Arsenal d'Arsène Wenger, mais le Arsenal Unai Emery, face à Tottenham qui vient de battre Chelsea, que faut-il imaginer, Xavier ?
C'est un match qui s'annonce extrêmement excitant, parce que pendant très longtemps, Tottenham
c'est les affiches qu'on choisit pour le week-end en général, c'est celles qu'on imagine les plus prometteuses.
Mais avec six clubs top niveau, de toute façon, la Première Ligue offre pratiquement chaque week-end une affiche. Ce qui est intéressant là, c'est que Tottenham, le jeu du Tottenham de Pochettino a évolué depuis la saison dernière. On avait l'habitude d'avoir une équipe généreuse qui s'exposait au contre, et on l'a vu notamment contre Chelsea, où c'est devenu une équipe rationnelle, très efficace, qui laisse aucune chance à ses adversaires, avec un tueur, c'est Harry Kane, avec des lieutenants à ses côtés, Dele Alli qui revient maintenant bien, Eriksson, voire d'autres comme Eric Lamela, l'Argentin qui avait un peu disparu, qui est revenu, Son, voilà. Donc il y a un vrai effectif
très important.
Donc on voit que cette équipe de Pochettino aujourd'hui, c'est pas seulement 11 joueurs, il a un vrai groupe parce qu'il a des ambitions, il veut gagner absolument quelque chose cette année après trop de saisons blanches, et donc il enchaîne les rendez-vous avec la Ligue des Champions, avec la Première Ligue, et avec à chaque fois un effectif qu'il garde impliqué. C'est pour ça qu'il tient ce discours sur Sissoko.
C'est marrant, je pensais qu'il parlerait plus des Gunners. Alors, Rémi, je vais vous laisser parler des Gunners, parce que les Gunners, quand même, finalement, cette équipe, elle a Pierre-Emerick Aubameyang, et puis elle a Lacazette qui...
Vous avez donc là ce qu'on appelle le malhonnête intellectuel, qu'on appelle le caméléon Barry. Parce qu'aujourd'hui, il ne parle plus.
Il a changé de cheval.
Il a déjà changé, il a oublié Arsenal.
L'interview était sur Moussa Sissoko, donc j'ai parlé de Tottenham.
Mais on parlait d'une rencontre.
Moussa Sissoko ne va pas jouer contre Arsenal. Est-ce qu'ils vont être maîtres chez eux?
C'est là où on voit la différence des entraîneurs. Quand je vous disais que Wenger, ça ne valait pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde, par exemple, ce que Emery est en train de faire, vous vous rendez compte quand même que, au-delà du fait que, à peine il était arrivé, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est les deux premiers matchs uniquement qu'il avait eu à perdre. Et j'avais dit qu'il allait s'adapter mieux que Arsène Wenger. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Arsenal, c'est la deuxième attaque du championnat de Première Ligue avec 28 buts. Arsenal aujourd'hui, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que jusqu'à la 28e minute, Arsène Wenger avait tous les attaquants qu'il avait. Le meilleur buteur, c'était Lacazette avec 9 buts. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Aubameyang qui marque 8 et Lacazette qui est déjà à 5. Et on se retrouve une organisation et puis au milieu, il y a
Doré. Donc, ils sont favoris.
Donc, pour
ils
moi,
sont favoris. Voilà. Alejandro, alors dans le football espagnol, on a remarqué le Real Valence aussi. On verra si ça peut être intéressant. À vous, je vous ai gardé un petit cadeau pour la fin. Le match de Ligue 1, Lille contre l'OL. Non, mais simplement parce que dès le début de la saison, vous nous aviez dit, il faudra faire attention à Lille. Lille est quand même descendu du podium ces derniers jours, mais l'OL l'a remplacé deuxième dauphin. Est-ce que ça risque d'être un match intéressant et important?
Oui, parce que les trajectoires sont un peu divergentes. C'est-à-dire que Lyon est en train de remonter. Il sort d'une semaine qui s'annonçait compliquée, mais ils ont battu Saint-Etienne dans le derby. Ils sont tenus tête à Manchester City, donc ils se déplacent avec beaucoup de confiance. Alors que Lille, qui avait démarré tambour battant la saison, aujourd'hui marque un petit peu le pas. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas gagné. Mais bon, je pense que c'est le match idéal pour que Lille se relance, pour que Lille revienne sur le podium. Donc je miserai pour une victoire de Lille, d'autant que Lyon a laissé quand même des forces dans la bataille contre
Champions.
Manchester City.
Oui, et pense peut-être à autre chose. Allez, notre session, celle que vous aimez, les cartons.
Carton jaune.
Tu sors un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Xavier Barré, quelle couleur, quel carton?
Un carton vert à quelqu'un sur lequel j'avais des réserves en début de saison, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, parce que je dois avouer que mercredi soir, j'ai été bluffé par sa maîtrise tactique du choc contre Liverpool et contre sa vieille connaissance d'ailleurs, Jürgen Klopp. Il a parfaitement maîtrisé la situation avec des joueurs dont on connaissait les qualités et qui ont su se mobiliser pour ce grand rendez-vous. Donc, carton vert à Thomas Tuchel.
Rémi Ngono, vous avez un carton?
Carton rouge à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, je lui donne un carton rouge parce que, à l'instant même, il a fait, depuis quelque temps, enfermer un journaliste de radio, c'est-à-dire Soleil FM. Et je trouve quand même cela regrettable parce que ce n'est pas la première fois, d'autant plus que il avait déjà aussi tapé sur un autre journaliste. Donc, à une certaine période, nous disons quand même que c'est bien beau, mais il faut aussi juger les journalistes et s'ils se comportent mal. Bon, et non, Rémi, qu'on les mette directement.
C'est pas trop dans le monde du football, là. Hein, donc, on aime bien rester dans le monde du football. Franck Simon.
Que je sache, Samuel Eto'o n'est pas dans la police encore.
Alors, mon carton, il est vert. Contrairement à la semaine dernière, il va aux Aigles d'âme, l'équipe féminine du Mali, qui ont atteint les demi-finales de la CAN féminine qui se déroule actuellement au Ghana et qui se battent contre le Cameroun, contre les Lions du Cameroun, pour la troisième place qualificative à la Coupe du Monde en France l'an prochain. Donc bravo aux Aigles d'âme du Mali. Mmh.
Samuel Marot, c'est votre dernier jour à Radio Foot International. Alors, vous avez l'honneur d'un carton. Quel est votre carton?
C'est un carton vert et ce sera pour l'Ajax Amsterdam pour leur retour en huitième de finale de Ligue des Champions. Et on les a vus contre le Bayern. C'est une très bonne équipe. On a découvert certains joueurs comme De Jong et De Ligt qui sortent du centre de formation. On a vu un très bon recrutement avec devant Tadic ou Huntelaar qui sont des joueurs qui sont déjà expérimentés du niveau européen. Un très bon carton vert pour l'Ajax et on espère les voir loin. Et au retour face au Bayern, un très beau match.
Eh bien, voilà. Merci Samuel pour votre aide tous ces jours. Et puis merci aussi à notre autre jeune stagiaire, Anton Tabé, qui nous a bien aidé cette semaine. C'est la fin de ce Radio Foot International. C'est la fin aussi de cette édition. Alors évidemment, on sait qu'il se passe plein de choses du côté de Accra. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football doit infirmer ou confirmer la candidature candidature du Cameroun pour l'organisation de la prochaine CAN. Et évidemment, eh bien, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe du service des sports, avec Olivier Pron qui est sur place, dans les journaux des sports, dans les magazines Mondial Sport du week-end pour en savoir plus. Et nous, évidemment, on en parlera lundi prochain de cette décision. Merci à tous, merci à Laurent Salerno, merci à Pierre Guérin aussi de m'avoir aidé à préparer l'émission. Et je vous dis à lundi.